Chapitre 4. Reflet du passé. Après avoir longuement médité, Lenrock conclut. Je ne vois qu'un point par où l'on pourrait peut-être résoudre l'énigme. Comment l'infirmière Anita a-t-elle connu cette histoire? Et pourquoi a-t-elle paru y attacher une telle importance? Elle a désigné le major Boniface. Mais ne peut-on supposer que Boniface avait comme complice un aide dans le pays et que c'est ce complice qui se sera confié à elle? À mesure que Lenrock développait l'hypothèse, il en sentait lui-même la logique et la vraisemblance. Il précisa. Quelle vie menait la veuve Anita? Lui a-t-on connu des liaisons? Plusieurs, affirma Pasquarella. Mais à cette époque, dans les mois qui ont précédé sa mort, cherche bien. Elle répondit. Le bruit a couru dans le temps que deux ou trois fois on vit entrer chez elle à la nuit un individu qu'elle ne saluait certes pas quand elle le rencontrait dans le village. Un grec d'assez mauvaise réputation nommé Zaphiros. Quel métier? Un peu tous les métiers, écrivain public, guérisseur, dentiste, mais surtout guide. Il habite une cahute sur le chemin du temple et il racole les étrangers pour la visite. Lenrock hocha la tête. Guide! Justement l'acolyte qu'il fallait au major Boniface pour aborder M. Manolsen. Justement le complice qui pouvait le mieux l'aider pour l'enlèvement de ta sœur. Boniface le connaissait? Je crois, oui, il le connaissait, je me souviens. Lenrock semblait content. Les événements se reliaient les uns aux autres et prouvaient la justesse de sa supposition. Zaphiros, amant d'Anita et presque dénoncé par elle, Zaphiros, ami de Boniface et soudoyé par lui, tout s'enchaînait. Quelle vie mène-t-il, ce Zaphiros? Très régulière en apparence, presque toujours il rôde autour de sa cabane dans l'attente d'un client ou d'un voyageur. Chaque soir, il dîne à l'auberge et il fume des cigarettes jusqu'à une heure avancée. Nathalie, qui se rappelait son agresseur nocturne, tressaillit et demanda. « Un homme brun peut-être, tout rasé et des cheveux aplatis par la pommade avec une raie au milieu ?»« C'est cela même. »« Vous l'avez donc remarqué ?» dit Lenrock à Nathalie. « Oui, hier, en arrivant, tandis que j'inscrivis mon nom sur le registre, il m'observait. »« Et vous avez signé et ce registre était à sa disposition ?»« Je le suppose, l'aubergiste l'avait tiré d'un buffet où il fut remis. » « Alors, cet homme connaît votre nom. Il a pu le connaître. Mais quelle importance y voyez-vous ? L'importance que vous y voyez vous-même, et c'est vous seul qui pouvez nous éclairer. Que s'est-il donc passé, et pourquoi l'évocation de ce personnage vous trouble-t-elle à ce point ?» Elle n'hésita pas à répondre, et elle le fit en quelques mots. « Cette nuit, un individu a pénétré chez moi par la fenêtre qui donne sur la cour intérieure de l'auberge. Il m'a saisi à la gorge, et après m'avoir dépouillé, s'est enfui. « Vous n'avez prévenu personne ?» dit Lenrock avec agitation. « Non, je voulais vous voir auparavant et c'est pourquoi je suis arrivée ici dans un tel état de détresse. J'étais déconcertée par ce vol si bizarre. »« Que vous a-t-on pris ?»« Un vieux bijou sans valeur que mon père, l'avant-veille de sa mort, m'avait envoyé de Palerme dans une boîte recommandée. »« C'était une sorte de gros médaillon, ou plutôt de reliquaire, que je portais toujours sur moi parce que mon père m'en avait prié dans la lettre qui accompagnait l'envoi, la dernière qu'il m'ait écrite. » Lenrock murmura. Ce Zaphiros est évidemment votre agresseur de cette nuit, mademoiselle. Comme complice de Boniface, il était au courant de toute l'aventure et il a eu l'idée de la terminer à son profit lorsqu'il a su hier soir que la fille de M. Manolsen était là. Quant à son rôle d'autrefois, quant aux raisons qui l'ont fait agir aujourd'hui, quant à la signification de son vol et à l'importance de ce bijou, c'est lui qui nous le dira. Comment ? Je saurai l'y contraindre. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas sur ses gardes et qu'il n'ait pas pris la fuite. Lenrock s'animait de plus en plus. Une étape encore s'achevait sur la voie de la vérité. L'heure de l'action approchait, et pour lui, l'action contenait toujours une part de certitude qui le grisait d'espoir. Il donnait ses instructions à Nathalie et à Pasquarella lorsque la sonnette retentit au coin de la maison. La mère et la sœur de Pasquarella revenaient de leur promenade. Lenrock et Nathalie se trouvaient alors dans l'allée qui conduisait à la barrière. Une vieille dame, pauvrement vêtue et dont la figure austère rappelait celle de Pasquarella, entra d'abord dans le jardin. Puis, il apparut une jeune femme coiffée d'une grande capeline de paille qui, aussitôt voyant les inconnus, releva un peu de chaque main sa jupe dont elle tenait l'étoffe entre le pouce et l'index et, gracieusement, esquissa quelques pas de danse. C'était la folle. Elle souriait gentiment. Elle n'offrait pas la figure sérieuse de sa mère et de sa sœur, mais au contraire, un visage heureux, allègre, frais et d'une beauté inexprimable. Elle chantonna une ronde enfantine, puis ne bougea plus, les paupières closes. Lenrock l'observait d'un air surpris, ainsi qu'on regarde une image déjà vue et qu'on s'étonne de rencontrer. Sans doute retrouvait-il certains traits de Pasquarella. « Salut, Laetitia !» dit la mère. Elle fit une révérence Et comme Helen Rock s'était avancée et la contemplait de tout près, elle ouvrit les yeux à son tour, le regarda, et tout à coup cessa de sourire. Elle raidit ses bras pour le repousser avec un air d'effroi, puis, dans un revirement subit, lui sourit de nouveau, mais le sourire mélancolique et douloureux qui faisait mal à voir. Toute sa gaieté s'en était allée, et elle semblait lasse au point qu'elle dut appuyer sa tête sur l'épaule d'Helen Rock. Elle y resta quelques secondes et s'y berça en un geste infiniment pudique. À la fin, elle reprit le léger balancement de sa danse et le refrain à peine perceptible de sa chanson. « C'est bien vous qui vous appelez Laetitia ?» demanda Helen Rock tout émue. Elle agita son mouchoir tout contre le visage d'Helen Rock. Il le saisit et respira longuement l'odeur qui s'en dégageait. Mais elle lui prit la main et l'entraîna vers l'autre bout du jardin, jusqu'à une brèche qui éventrait la clôture et qui était traversée de fils de fer mal tendus. Elle la lui montra comme si elle lui voulait dire « C'est par là qu'on est passé ». Et elle montra aussi en revenant une échelle suspendue à la poutre d'un hangar, probablement l'échelle qui avait servi à pénétrer dans sa chambre. Elle se laissa ensuite tomber au revers d'un talus et demeura inerte. Pasquarella gémissait. « Ma pauvre sœur !» Et la mère Dolci marmotta, toute frémissante de haine, « Si je ne croyais pas qu'elle soit jamais vengée, j'aimerais mieux mourir !» Helen Rock ne quittait pas des yeux la malheureuse et Nathalie se rappelait le soir où il l'avait examinée de la même façon, à la clarté d'une lampe et où il disait avec émoi « Je vous ai vu déjà, vous faites partie de ma vie. » Avait-il vu réellement la jeune fille, à quelle époque et dans quelles conditions? Quand il se fut détaché de sa contemplation, il s'éloigna sans dire un mot de plus et sans se retourner. Helen Rock eut la joie de constater que Zaphiros n'avait pas pris la fuite. De la petite place du village qui domine la plaine de ses gestes, il se fit indiquer la cahute dont Pasquarella avait parlé, et on lui désigna un individu qui accompagnait deux visiteurs sur la route du temple. Il le surveilla. Zaphiros offrit encore ses services à un autre voyageur, puis à la fin de la journée, il monta au village, rôda autour de l'auberge pour épier Nathalie, ensuite autour du jardin Dolci pour épier Pasquarella dont le retour, coïncidant avec l'arrivée de Nathalie, devait l'inquiéter. Il soupa le soir à l'auberge et en sortit tard. Helen Rock, qui voulait que l'entrevue eût lieu en présence de Nathalie et de Pasquarella, ne l'aborda pas. Mais le lendemain matin, pénétrant chez les Dolci, il enjoignit à Pasquarella d'aller prendre Nathalie. Tandis qu'il serait lui-même au temple, elles gagneraient toutes deux, sans attirer l'attention, le chemin du mont Barbaro et se posteraient dans les ruines du théâtre antique. Il y amènerait le grec. Les choses se passèrent ainsi. À 9h, Helen Rock traversait le lit desséché d'un petit torrent, atteignait la maison du jardin et se dirigeait vers le temple de ses gestes. Il marchait de son air à la fois absorbé et attentif. Le trouble ressenti près de la folle, il le retrouvait en contemplant le magnifique spectacle que forme l'immense cirque des montagnes arides, et il songeait moins à l'admirer qu'à chercher en lui-même quel souvenir aboli évoquait certains détails de ce spectacle, la courbe de cette montagne, la couleur du paysage, la belle ligne de ce ciel découpé par des lignes si pures du monument. Et c'est à peine s'il s'aperçut tout d'abord que Zaphiros avait surgi devant lui et lui offrait son concours. C'était un petit homme souple, jeune encore, et bien pris dans des vêtements clairs, avec des gants de fil et un chapeau de paille. Sans attendre la réponse d'Helen Rock, il se mit à discourir sur le temple en style de Cicérone. Voilà l'une des constructions les plus grandioses qui a élevé l'architecture dorique. Et dans quelle solitude et solennelle! Il y a 36 colonnes de 9 mètres de haut. Helen Rock le laissa pérorer. Certain que le grec ne soupçonnait rien, il posa quelques questions techniques auxquelles l'autre se hâta de répondre, et ils firent ainsi le tour du temple. Après quoi, Zaphiros engagea vivement son client à visiter le théâtre antique. Ils redescendirent donc vers la maison du gardien et escaladèrent le mont Barbaro. Les environs étaient déserts, aucun voyageur. Helen Rock, qui s'était informée, savait que le train de Palerme n'arrivait que plus tard. « Nous sommes ici sur le mont Barbaro, disait le grec, 400 mètres d'altitude. Veuillez contempler le panorama que les touristes les plus experts considèrent comme un des plus beaux du monde. Le théâtre a un diamètre de 63 mètres avec une vingtaine de gradins. » Il s'arrêta net. Sur un signe d'Helen Rock, Nathalie et Pasquarella, qui se tenaient à l'écart et dissimulés, avançaient. S'étant retournés, Zaphiros les vit à 3 pas de lui. Il n'y avait personne autour d'eux, ni aux abords des ruines. Il recula un peu, pressentant le péril. Helen Rock lui plaqua un revolver sur la tempe en disant « Pas un mot, Zaphiros, tu es cerné, traqué dans la possibilité de te défendre. Et surtout, ne te sauve pas. D'ailleurs, pourquoi te sauver ?» Ce n'est pas mon revolver qui te retient, mais la situation elle-même. Si tu fuis, je te dénonce. » Le grec s'agita sans comprendre, l'air effaré et le regard faux. Il bredouilla. « Qu'y a-t-il? Que voulez-vous? Qu'ai-je fait ?» Helen Rock rempocha son arme. Dès l'instant que Zaphiros acceptait l'entretien, nul doute qu'on en amena à composition. « Ce que tu as fait, il énuméra. D'abord, tu es de ceux qui ont enlevé Laetitia et qui, par conséquent, sont responsables de sa folie. Ensuite, tu es de ceux qui ont poursuivi M. Manolsen et qui sont, par conséquent, responsables de ce qui lui est advenu. Mais je n'en dirai pas davantage. Tu vois que je suis bien renseigné sur tout ce qui te concerne et que tu as avantage à t'entendre avec moi. » Le grec n'avait nullement l'air d'admettre cet avantage, mais il crut sentir que le péril n'était pas aussi grand qu'il le pensait. Il se risqua donc à écouter ce qu'on avait à lui dire, quitte à prendre telle décision qui conviendrait. Il s'installa sur l'un des gradins, se croisa les jambes et reprit d'un ton dégagé. « Je m'aperçois que je suis tombé dans un piège et que vous y êtes pour quelque chose, Pasquarella Dolci. J'écoute. »